avec le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, bienvenue, c'est vendredi. Vendredi, on prend le chemin de l'école, mais on prend un chemin détourné, on file pas droit aujourd'hui, on grimpe aux arbres, on fabrique des objets, on organise une course d'orientation, on observe les oiseaux, bref, on se reconnecte à la nature, on fait l'école buissonnière. Les enfants de nos jours grandissent, sous une grosse pression, maintenant ils ne connaissent pas forcément leur potentiel, leur envie, leur comment les aider à se retrouver, à mieux se connaître pour grandir. En toute harmonie, les voisins réagissaient sur Facebook. On en parle donc aujourd'hui avec trois invités qui tentent l'école autrement. Je vais commencer avec vous, Marie Gervais, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez La famille buissonnière chez Delachaux et Niesley et vous avez également créé une école démocratique à Paris. Ça fait une petite année maintenant, en deux mots, cette école.
Ah ouais, bah c'est l'école dynamique, donc on était six cofondateurs et on a fini notre première année à la fin du mois de juin là.
C'était pas en pleine nature, c'était à Paris, mais ça marche
quand
même.
Non, c'était pas en pleine nature. Alors, on était à deux pas du parc Montsouris, mais voilà.
C'était votre cours de récréation. Voilà. Également avec nous, Marine Locatelli, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez la pleine conscience et vous êtes l'auteur aussi de multiples livres. Alors, il y a Heureux et détendu, par exemple. Chez Nathan, il y a aussi 50 activités de méditation pour toute la famille, toujours chez Nathan. Également, mon premier cahier récréatif en méditation chez Erol, des cahiers qu'on peut emmener là pendant les vacances. Et votre grand projet, vous allez nous en parler, ça s'appelle Green Teens. En deux mots, donc vous allez partir avec vos deux ados.
C'est un projet documentaire cinéma autour du monde, dans des lieux pour adolescents où on apprend complètement différemment d'ici. Des lieux en pleine nature pour se reconnecter à soi.
Changer l'éducation de nos enfants, donc ce sera le thème du documentaire. Et avec nous, Renaud François, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, bah vous avez bien déconnecté à fond dans la nature, vous êtes le père de Tom et avec votre fils donc, qui était en train de décrocher à l'école, vous lui avez proposé une autre école.
Voilà, on a quitté l'école en plein milieu de l'année pour partir au Kyrgyzstan pendant 3 mois, à cheval. Et on a traversé tout le pays.
Une sacrée aventure hein, que vous racontez dans ce livre « Dans les pas du fils » chez Kéro. Et c'est donc écrit à deux mains, Renaud et Tom. François. Alors Marie Gervais, vous proposez à tous les voisins, les voisines de devenir une famille buissonnière. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ça j'implique plusieurs choses. D'abord, c'est se reconnecter à la nature. Dans une société qui nous déconnecte de plus en plus, on vit enfermé, on vit dans la ville. Mais c'est commencer par se reconnecter avec soi. Et donc, ça passe par déjà repasser du temps en famille. À faire des choses ensemble ou juste à aller dehors ensemble et puis se poser des questions aussi pour ne pas juste hériter de tout un tas de choses qu'on reproduit à notre tour mais vraiment se poser un instant, notamment en tant que parent.
Oui, sur notre rôle, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande ? On en demande peut-être trop aux enfants, toujours plus vite, toujours plus, trop de choix, trop de jouets. Donc c'est de voir où on en est par rapport à ça.
Voir où on en est puis voir où on veut aller en fait. Parce que j'ai remarqué qu'on... On héritait d'un système éducatif et souvent on ne se pose pas de questions, c'est juste se poser le couple ou soi, si on est un parent seul, et se dire mais qu'est-ce que je veux garder de cette éducation que j'ai reçue, que ce soit nos propres parents, mais la société en général, et qu'est-ce que je veux garder, ce dont je ne veux plus, pour vraiment se créer son propre chemin.
Alors on se plaint souvent que nos enfants sont scotchés devant les écrans, Marine Locatelli, qui ne passent pas assez de temps libre à l'extérieur. Il y a une peur maintenant de l'extérieur ?
Oh, comme c'est une difficile question, la peur de l'extérieur. Oui, c'est pour certains, oui, je pense qu'il y a une peur de l'extérieur, parce qu'à l'école, on veut tout contrôler, on veut maîtriser les chutes, on interdit finalement aux enfants à expérimenter, à grimper dans les arbres, à explorer. Je me souviens de ma fille aînée, lorsqu'elle était en école Montessori toute petite, ils jouaient avec des pneus. Ils avaient des pneus dans la cour et avec ces pneus, ils faisaient des pyramides, ils pouvaient se glisser à l'intérieur, les faire rouler, faire une balançoire. Et c'était formidable d'inventer à leur façon comment jouer avec ces pneus.
Aujourd'hui, on passe trop de temps libre à l'intérieur. C'est ce que vous expliquez, Marie Gervais. il y a une sorte de repli effectivement vers l'intérieur. Avant, on pouvait passer du temps, une journée, les enfants pouvaient être libres dehors. Aujourd'hui, la moitié de la population vit en ville. Il y a une sorte de repli vers l'intérieur pour les jeux.
Oui, c'est à la fois effectivement un repli vers l'intérieur et on a un pays qui est de plus en plus urbanisé. Donc voilà, il suffit de regarder quand on était soit enfant les espaces libres qu'on avait quand on était petit, ce qu'il y a maintenant. Mais c'est aussi occuper le temps, tout le temps. Donc c'est vraiment occuper l'espace, le temps et ne plus avoir un moment de temps libre. Les deux sont vraiment interconnectés en fait.
Mais qu'est-ce que ça crée chez l'enfant, cette surabondance
Je pense que ça crée... pour aller au bout, vraiment une déconnexion. C'est-à-dire qu'un enfant qui est occupé constamment de l'extérieur, puisque c'est le parent, l'adulte, qui va lui amener une activité, une fois qu'il se retrouve tout seul, il ne sait plus quoi faire, juste avec lui-même. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis moi, j'ai aussi rencontré beaucoup d'enfants qui ne savent plus être dehors, qui ont peur, parce que c'est des discours qu'ils entendent, qui ont peur de tomber, qui ont peur de se salir avec la terre, qui ont peur de se mouiller. Enfin, c'est quelque chose qui est là, qui est très prenant, je trouve, dans la société aujourd'hui.
Mais du coup, vous pointez un syndrome, carrément le syndrome du manque de nature. Oui, Marine Locatelli.
Oui, ce manque de nature, il est flagrant. Personnellement, j'ai grandi dans le Vercors, en forêt, avec le ski nordique et les balades avec nos écoles. Et les instituteurs, les enseignants nous laissaient dans la nature, au pied des arbres, pour étudier un arbre, et partaient plus loin avec un autre groupe. Donc on était seuls. L'enseignant prenait des risques qu'il ne prend plus aujourd'hui. Aujourd'hui, si un enseignant laisse les enfants seuls explorer quelque chose, et s'il y a un accident, ça va... les parents vont porter plainte ou vont être très négatifs par rapport en fait, à ce qui peut arriver avec eux aussi. Avec les parents, il peut aussi y avoir des accidents. Donc moi, j'ai vraiment envie, comme tu le dis aussi, Marie, qu'on laisse beaucoup plus de liberté et d'exploration, qu'on soit des aventuriers, qu'on fabrique soi-même des jouets, des choses, qu'on ait des temps à ne rien faire dans la nature pour regarder le ciel, regarder une coccinelle sur sa main, sentir l'air, les fleurs... voir à travers les arbres des formes de dragons ou de villes. Enfin, c'est magique.
C'est vraiment une source de créativité à vous entendre, Marine Locatelli.
Ah oui, on peut partir en forêt, se trouver un totem avec un caillou ou une branche d'arbre, rentrer à la maison, créer un mandala ou un petit land d'art à sa façon. Je me lasse pas, moi, d'aller en forêt, en tout cas, ou au bord de la mer.
On va écouter tout de suite Guts qui nous chante Peaceful Life. Je traduis pas.
I
Et si l'éducation manquait de nature, les voisins, les voisines, on dit souvent en Afrique hein, qu'il faut tout un village pour élever un enfant, donc c'est un proverbe africain. Du côté des familles européennes, on assiste aussi à une perte de confiance dans la manière d'élever nos enfants. Est-ce que c'est lié aussi au fait que justement on ne les laisse pas assez dans la nature, Marie-Gervais ?
Je pense, mais ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on vit enfermé. Encore une fois, on vit enfermé dans nos maisons, mais on vit aussi enfermé dans nos cellules familiales, notre noyau nucléaire, là, où finalement on se retrouve deux parents, voire un, et les enfants, et on est un peu enfermé, on est de plus en plus loin de la famille. Et du coup, je pense que quelque part, ça devient un peu nocif, effectivement, d'être en milieu fermé comme ça. J'utilise pas mal en ce moment l'image de la boule de hamster. Voilà, j'ai l'impression qu'on tourne en rond et qu'on se fait du mal quelque part aussi.
Il faut ouvrir la cage.
Il faut ouvrir la cage. Et puis, il faut retrouver du lien avec la famille, avec les voisins, avec des gens avec qui on partage des valeurs.
Mais c'est vrai qu'on n'apprend pas à être parent. Enfin, personne ne nous dit comment il faut faire. Il n'y a pas d'école pour ça. On apprend sur le tas de nos enfants, Marine Locatelli.
Oui, on est aventurier. Vraiment, on est aventurier depuis la grossesse jusqu'à les différents âges de nos enfants. Ce qui me semble vraiment primordial, c'est d'inventer, de créer des rituels de passage. De la petite enfance à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. Et d'inventer ces rituels de passage dans la nature, que ce soit la mer ou l'océan pour ceux qui vivent au bord de l'eau, ou nous les forêts, mais passer une nuit à la belle étoile, partir dans un pays où vous allez à la rencontre de conteurs africains ou de danseurs sacrés en Himalaya, mais...
De rythmer comme ça l'enfant qui grandit avec ses rites de passage. Alors, c'est peut-être un rite que vous lui avez fait passer, alors
c'est vraiment véritablement un rite. Oui. C'est un voyage initiatique.
Donc, vous êtes parti avec votre fils Tom, hein, je résume. Il était en train de sombrer, on peut dire ça, à l'école.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous.
À l'époque, c'était mois de février de l'année scolaire, et puis il était tombé un peu dans la marijuana, donc il avait une consommation qui était trop importante pour pouvoir suivre les cours. Il allait à l'école, il avait 17 ans, les cours lui plaisaient plus. Il venait en cours, mais c'était juste pour faire acte de présence. Et puis, il avait une violence en lui qui se répercutait sur tout ce qui pouvait représenter l'autorité. Donc, ça pouvait être les professeurs, sa maman, son papa. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que dans sa vie, tout était en train de se casser la figure. Et même avec les copains de hockey, ils jouaient au hockey, et ça devenait compliqué. Donc, et voyant ça, je me suis dit, mais il faut le sortir de là et l'emmener dans un endroit neutre où il va pouvoir, lui, se reconstruire, retrouver de nouvelles valeurs et se trouver dans un milieu qu'il ne connaît pas. Donc, il va être obligé de bouger, de changer.
Et ça, vous avez été donc... votre idée, c'était de l'emmener donc dans la nature. Hein,
Alors, il y avait plusieurs cadres qui étaient pour moi importants. C'était l'emmener dans la nature, hors de toute connexion Internet, de toute connexion téléphone, de manière à couper et avec les copains et avec le Facebook et aussi avec la maman. Et puis, il y avait aussi l'idée de nous obliger à devoir compter l'un sur l'autre. Et pour aller là-dedans, on est parti à cheval, mais on ne savait pas monter à cheval. Donc on a acheté 4 chevaux au Kyrgyzstan. On a appris relativement vite, il a fallu apprendre relativement vite. Et l'idée, c'était de dire, on part sur un plan d'égalité. C'est-à-dire que moi, en tant que papa, je n'en sais pas plus que toi. Et il va falloir que tu apprennes autant que moi. Et si par hasard on a des ennuis, il va falloir que je puisse compter sur toi. Donc voilà. Ça, c'était pour moi un cadre très important. Et puis, le fait d'aller à la rencontre d'une autre population, de gens qui vivent totalement différents, où les enfants sont... Alors là, pas du tout élevés de la même manière. Ils sont élevés vraiment en contact de la nature depuis qu'ils sont tout petits. Les enfants montent à cheval dès 3 ans. Donc Tom a pu voir des enfants qui avaient 10, 11 ans et qui étaient déjà pratiquement adultes, qui étaient capables de gérer une maison, qui étaient capables de gérer un troupeau, qui étaient autonomes. Un gamin de 10 ans qui part toute la journée dans la montagne à cheval pour gérer un troupeau, ça l'a choqué. Et en même temps, ça lui a fait prendre conscience que lui, avec ses petites crises, il était pas forcément bien placé pour...
Donc ça, pour le coup, c'était une sacrée aventure. Hein. Vous l'emmenez donc 3 mois dans ces steppes du Kyrgyzstan, à cheval, donc vous le déscolarisez.
Ouais.
De fait, vous le sortez du système.
Ouais. Et c'est assez compliqué, en fait. J'ai essayé d'avoir de l'aide. Enfin, d'abord, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions pour la marijuana, donc voir comment on pouvait lutter contre la dépendance. Je me suis rendu compte très vite qu'il serait par terre avant qu'on ait eu le temps de trouver une solution. Et puis les professeurs étaient contre. En disant mais non, il ne faut pas sortir du cadre, vous vous rendez compte le danger que vous prenez,
enfin, le risque. Il y a des problèmes avec le cadre, ne le sortez pas du cadre.
Voilà, et puis vous imaginez, s'il ne revient pas à l'école au mois de septembre, il va vous en vouloir toute sa vie.
Qui vous culpabilisait bien, ouais. Sur le choix, sur l'aventure que vous aviez envie de tenter.
Voilà. Et j'ai eu la chance, et je pense que le lycée où était Tom a la chance d'avoir cette femme qui est la CPE du lycée. Qui m'a dit, mais l'année dernière, vous m'aviez parlé de votre projet et je trouvais que c'était bien. Et puis, je ne vous avais pas accompagné parce que tout le corps enseignant refusait ou ne voulait pas. Là, cette année, je vais vous dire, allez-y, allez-y, allez-y. Et en fait, c'est grâce à elle où j'ai pu enclencher. Et voilà. Donc, Tom a quitté l'école au mois de mars. Il est venu habiter chez moi à Paris pendant 2 mois. On a préparé...
L'expédition,
voilà, à trouver le matériel, la tente, les duvets, et puis voir comment ça allait se passer, parce que c'est de la haute altitude quand même, on était entre 3000 et 4000 mètres.
Oui, puis au début, il freine des pieds quand même, il n'a pas trop envie d'y aller, hein. Ouais. Ça le saoule,
ça le saoule vraiment, parce que d'abord, c'est ses copains, c'est-à-dire que c'est vraiment sortir de son environnement, sa maman, et puis il avait passé 3 mois en tête-à-tête avec son papa, et ça, c'était super compliqué, et se confronter, effectivement, à être obligé de trouver des issues dans la relation à chaque fois qu'il y avait un...
Oui, parce que ça aussi, c'est votre idée, parce que vous partez aussi de ce constat, ce que vous disiez, Marie-Gervais, le constat de comment, où j'en suis comme parent. Vous n'aviez pas de lien avec votre fils, en fait. Vous
très
aviez
peu,
un peu
fait,
déserté.
Déserté, je ne sais pas le mot, mais je n'avais pas réussi à trouver ma place. Mmh. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'en souffrais. Je souffrais de ne pas avoir de relation, la relation que j'aurais aimé avoir avec mon fils. Et en fait, n'ayant pas eu, moi, un papa présent, je me rendais compte que j'étais en train de reproduire la même chose. Et je ne voulais pas du tout ça. Et donc voilà, et l'idée, ça a été de tout remettre à plat. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos enfants. C'est-à-dire que la crise d'adolescence ou les différentes crises chez l'enfant, pour moi, révèle un mal-être, mais un mal-être qui n'est pas lié à l'enfant, mais qui est lié à tout son environnement, qui va être la société, mais qui va être aussi la famille, la relation dans le couple de ses parents.
Et vous aussi, vous étiez en plein burn-out aussi. Enfin, ouais. Vous avez vécu ça dans votre entreprise. Oui, non, enfin, je veux dire, c'est effectivement une conjugaison comme ça de tas de...
De remise en question.
Tas de remise en question, de problèmes aussi que la société nous fait subir. Marie-Gervais, vous aviez envie de...
Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que quand on parlait tout à l'heure de débrancher les écrans, les trucs. Bon, là, je pense que c'était effectivement nécessaire. Ça n'aurait pas eu de sens de rester connecté à l'autre bout du monde. Moi, je tiens dans mon livre à dire que dans un cadre normal en France, c'est pas les écrans qui sont à diaboliser. On diabolise très vite les écrans, quand même. Je pense que la première chose à faire, c'est soit en tant que parent, c'est juste... on est très rapide à critiquer nos enfants là-dessus. Moi, j'ai un fils qui a 10 ans et demi, qui est un accro des jeux vidéo. Son papa travaille dans une grosse boîte de jeux vidéo et joue aussi. Mais pour autant, c'est pas un problème dans le sens où on arrive à trouver un équilibre avec la nature et à être ensemble. Et en tant que parent, je pense qu'il faut vite regarder aussi sa propre consommation d'écran.
Alors vous restez avec nous, Marie-Gervais. Dans 3 minutes, on se retrouve après le flash. Donc vous publiez La famille buissonnière chez Delachaux et Niesley. Également avec nous, Marine Locatelli, vous enseignez la pleine conscience. Et Renaud François pour votre livre Dans les pas du fils chez Kéro. On se retrouve dans 3 minutes après le flash.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, vous nous rejoignez sur les chemins de l'école. Mais le chemin est détourné aujourd'hui pour profiter de la nature. Une nature de plus en plus lointaine pour la moitié de la population mondiale maintenant, qui vit dans les villes, une nature trop souvent oubliée devant les nouvelles technologies envahissantes. Alors les enfants de nos jours grandissent sous pression, comment les aider à grandir justement en pleine possession de leur vie, en harmonie, et si la nature était une source de créativité, une manière de mieux se connaître, les voisins, les voisines, vous pouvez réagir sur Facebook. Et nous sommes avec trois invités, Marie Gervais, qui publie La famille buissonnière, découverte et activité en connexion avec la nature, chez Delachaux et Niestlé. Et vous avez aussi créé une école démocratique à Paris. Et vous nous direz, effectivement, après un an d'existence, quel est le principe et comment, et le rapport aussi à la nature que vous avez réussi à faire en plein Paris. Également avec nous, Marine Locatelli, qui vous enseignait la pleine conscience et auteur de multiples livres. Alors vous êtes très productive, je vais dire, autour de la méditation, heureux et détendu, 20 secrets pour t'aider à vivre mieux. C'est chez Nathan, également mon premier cahier récréatif de méditation chez Erol, et ce grand projet dont vous allez nous parler, puisque vous allez partir avec vos deux ados, faire un tour des écoles nouvelles à travers le monde, et également avec nous Renaud François, père de Tom, votre enfant donc était en train de décrocher de l'école et vous l'avez emmené 3 mois dans les steppes kirghizes, 3 mois à cheval. Alors qu'est-ce que la nature vous a inspiré entre le père et le fils? Vous le racontez en tout cas dans ce livre chez Ekiro que vous avez écrit avec votre fils. Alors pourquoi c'est important de donner les clés d'une vie plus proche de la nature, Marie Gervaise?
C'est important parce qu'on est... On fait partie de cette nature, je pense, d'abord, il ne faut peut-être pas l'oublier. L'homme a tendance à considérer qu'il est au-delà de tout ça en s'appropriant toutes les ressources et tout l'espace sur cette terre, mais on fait partie au même titre que les animaux, les plantes et tout ça. On est des êtres vivants. Je pense que c'est important pour soi aussi de justement se sentir cette connexion, en fait, ce côté vivant, parce que je pense qu'on perd beaucoup en perdant ça. Et voilà, c'est je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter d'un côté comme ça. C'est vraiment une vision globale de la vie, en fait, qui fait qu'il ne faut pas juste aller dehors, qu'il ne faut pas juste trier ses déchets, mais qu'il faut réfléchir aussi en même temps. Et ce qui m'a fait donner envie d'écrire ce livre, c'est que je voyais à l'école de mes enfants, donc à l'époque, ils étaient dans une école classique, et puis ils avaient des leçons sur le tri des déchets, avec beaucoup de culpabilisation là-dedans, souvent. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait zéro réflexion derrière là-dessus et qu'on voilà, on est dans une éducation behavioriste, on demande d'apprendre des gestes qu'on fait machinalement. Maintenant tout le monde sait mettre quelle chose dans la poubelle lequel de telle couleur. Par contre sur est-ce qu'on peut peut-être commencer par changer notre façon de consommer parce que ça sert à rien de consommer n'importe quoi et dans des quantités extraordinaires. Voilà, juste en triant nos déchets derrière.
Alors comment on peut développer le goût de la nature, justement, et pas seulement l'admirer à la télévision, Marine Locatelli?
Comment développer le goût de la nature? Moi, j'aimerais qu'on ramène la nature dans les villes. Je suis ravie quand je commence à voir qu'à Paris, sur les toits, il y a des potagers, qu'on a des murs de verdure. J'ai envie que ça se développe davantage, vraiment, qu'on trouve ensemble, qu'on soit des pionniers, comme aime le dire Bertrand Piccard, qu'on sorte ce qui a créé Solar Impulse et qui vole en avion solaire. J'ai vraiment envie, comme lui, qu'on soit des inventeurs, qu'on trouve des solutions ensemble, qu'on ait pas peur d'inventer, d'innover.
Alors, des idées dans votre livre, Marie Gervais, il y en a. Alors, il y en a une, elle est toute simple, c'est ne rien faire. Alors voilà, on ne fait rien, on va dans la nature et on ne fait rien.
Mais ça veut dire quoi déjà ne rien faire? Parce qu'on dit beaucoup ça à nos enfants, mais en fait c'est juste pas possible de ne rien faire. Soit on est en train d'observer, soit on est en train de rêver, on est en train de développer notre imagination, on est en train d'écouter. Ça n'existe pas ne rien faire en fait. C'est nous qui justement cherchons à ce que l'enfant, notre enfant ou celui qu'on a sous notre nez là, soit toujours occupé. Voilà.
Dans ce que tu dis, Marie, c'est d'être pleinement présent à tout ce qui est autour de nous, à tout ce qui est là. C'est la pleine conscience, c'est écouter, c'est observer, c'est être contemplative. On pourrait ne pas parler de pleine conscience, c'est quelque chose de spontané aussi, si on le vit marcher dans la forêt ou marcher dans les steppes du grand voyage que tu as vécu, Renaud, avec Tom. C'est cette pleine conscience de l'instant présent, c'est moment après moment, soit être à cheval, soit traverser une rivière à pied, soit marcher, soit faire un feu.
Les Renaud François.
Oui, je pense que c'est important de reconnecter les enfants à la nature. Et pour les reconnecter, tel qu'on le fait aujourd'hui, ça reste à l'étape de concept. C'est-à-dire que l'écologie, je pense que pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très abstrait. Et j'ai expérimenté avec Tom ce que c'était que voilà, de traiter, ne pas utiliser de pesticides dans les champs. Mais voilà, il faut aller désherber. Donc on est allé désherber dans un champ. Et à partir de ce moment-là, il a vraiment compris l'intérêt de ne pas utiliser des pesticides. Et je pense que l'expérimentation dans la nature... C'est un pouvoir, c'est là où on apprend vraiment, c'est en expérimentant. Quand vous recevez, quand on vous fait un cours et qu'on vous apprend des choses, donc l'information vient que dans un sens, je pense que ça peut rentrer d'un côté et ça peut ressortir de l'autre très facilement, alors que quand vous le vivez, là ça reste vraiment.
Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs dimensions. Bon, vous partez 3 mois dans les steppes, donc on imagine effectivement que la nature, on est immergé dedans 24 heures sur 24, donc on imagine effectivement dormir à la belle étoile, à faire le feu le matin ou le soir pour avant de se coucher, se tenir chaud à côté, de regarder les étoiles. Mais quand on vit en ville, alors Marie Gervais, quelles sont vos bonnes idées quand on vit en ville pour se rapprocher de la nature?
Je pense que ça passe par des trucs très simples, mais c'est aussi se dire que même si on est en ville, on peut faire un feu. Enfin, j'habite en banlieue parisienne, mais même si on est à côté de forêt, mon fils et son copain, ils ont fait un feu dans notre jardin, sur la terrasse. Voilà. Calfeutré avec des pierres. Puis bon, quand les flammes ont commencé à faire quasi 1 mètre de haut, j'ai arrêté le feu quand même, parce qu'il y avait les voisins qui commençaient à se demander ce qui se passait. Et on a un tout petit jardin. Et puis c'est aussi se prendre par la main quand on habite en ville, en tant que parent, et sortir de la ville. Paris est immense et je trouve qu'il y a très très peu d'espace vert. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Moi, j'ai des amis qui habitent Berlin et j'ai trouvé que Berlin était une ville extraordinaire dans cette présence de la nature. Et la nature, c'est pas que un parc avec une herbe tondue. C'est des espaces en friche. C'est dans les aires de jeu à Berlin, il y a plein d'espaces qui sont laissés pour les enfants avec juste des buissons dans lesquels ils vont courir.
Parce qu'il y a beaucoup de parcs aussi, on n'a pas le droit où les pelouses sont interdites.
Oui, donc ça Paris, aussi. C'est assez fou.
Et vous donnez aussi une autre idée. Alors, c'est votre journée off. On annule tous les rendez-vous, on manque les cours et on décide ensemble de ce qu'on fait. Ça m'a bien plu, ça.
Oui, bah, il suffit de le faire, en fait. Il y a une espèce de peur de beaucoup de parents face à l'école. De façon générale, j'aime bien rappeler que l'école n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire. Donc,
merci de le rappeler.
Du coup, voilà, quand j'entends Renaud qui raconte qu'à l'école, ils n'étaient pas d'accord, forcément, en fait, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas leur mot à dire quelque part.
Les parents mettent beaucoup d'importance à l'école, ne veulent pas arrêter une journée, il y a cette pression-là du résultat, de la réussite.
Ah oui, complètement. Puis on n'ose pas, face à l'école, c'est-à-dire les profs, le directeur, on n'ose pas s'imposer en tant que parent, mais on peut s'imposer en tant que parent. Et en fait, on prend un peu de recul et on se dit, est-ce que ce rendez-vous est vraiment important? Est-ce que je ne peux pas un peu le reporter? Est-ce que... Moi, j'ai fait ça la première fois quand j'avais inscrit mes enfants à des activités sportives, parce que j'étais dans ce truc-là où il faut qu'ils fassent une activité sportive le mercredi. Et puis quand il y a eu la réforme des rythmes scolaires, là, c'est devenu le grand n'importe quoi. C'était la journée la pire de la semaine. On faisait que courir. Et à un moment, j'ai dit stop, quoi. On n'est pas allé. Et du coup, ils ont pas fini l'année parce qu'en faisant une pause, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça leur plaisait pas du tout. Et c'était pas grave. Voilà. Juste, c'est pas grave si à un moment, on s'arrête une journée et on arrête nos activités, on reporte un rendez-vous.
Ouais, l'idée, là, c'est de décider ensemble un peu ce qu'on fait. Donc, effectivement, de décider ensemble. Tiens, on a cette journée devant nous. On part à l'aventure. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans cette journée, Marine Locatelier? Vous trouvez que c'est une bonne manière, effectivement, de se réapproprier l'éducation, le temps,
oui,
l'espace.
C'est de se donner un autre temps. Et comme les imprévus surgissent tout le temps, il faut se laisser aller dans ce flot et faire confiance Et puis peut-être que votre enfant, il a envie de vous proposer quelque chose, il n'osait pas, et puis il va vous dire, tu sais, en fait, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est d'aller là, ou... bon, et puis on y va ensemble. Mais en tout cas, en ce qui concerne le projet, comme tu parlais de l'école, que les parents peuvent être acteurs et agir, oui, moi, quand j'ai vu le rythme du début de la sixième et ce qui était enseigné en première, l'automne dernier, entre septembre et novembre, j'ai dit, allez là, stop, on va faire différemment parce que c'est plus possible.
Oui, donc ça nous amène sur votre projet. Donc vous voulez aller emmener vos deux ados faire un tour du monde, on va dire, et de visiter donc ces écoles qui apprennent différemment, qui ont aussi un autre rapport à la culture, à la nature. Ça va vous amener où ?
Où ça va nous amener, ça, on ne sait pas encore. On va se laisser emporter par les découvertes. Mais j'ai vraiment le souhait, c'est d'ouvrir d'autres portes et de voir qu'autre chose est possible ailleurs, que ça pourrait aussi exister ici, que ça commence à exister en France avec les écoles démocratiques. Mais pour les adolescents, y a très très peu, en fait. On a des écoles Montessori, Steiner pour les petits, mais pour les plus grands, tout est à inventer, vraiment. Et le système d'aujourd'hui n'est plus du tout adapté à nos enfants qui ont une autre conscience.
Parce que pour vous, le système, il devrait permettre quoi aujourd'hui ?
Le système, il interdit trop. Il y a trop d'évaluations, trop de contrôles. Nos enfants ne deviennent pas qui ils sont, et ils ne savent pas qui ils sont. Et on les dresse un peu les uns contre les autres. La compétition est trop présente, la concurrence. Moi, je souhaite une éducation mutuelle. Je souhaite que les plus grands aident les plus petits, que les enseignants, que ce ne soit plus un enseignement pyramidal, comme le dit aussi Edgar Morin. Mais j'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose de différent. Vous avez des enseignants déjà qui vont dans cette direction. Pour Green Teens, on a déjà 3 enseignantes, dont une qui enseigne les sciences et vie de la Terre, et qui, pour elle, c'est une aberration d'enseigner les sciences et vie de la Terre enfermées dans une salle. Il faudrait aller enseigner les sciences et vie de la Terre, comme le dit Stéphanie Dussurgé, en pleine nature. Donc elle a l'impression de trahir les enfants. Moi aussi, j'avais l'impression de trahir mes enfants si je les laisse dans ce système, comme il devient. Quand vous avez des enfants créatifs, ou quand vous avez des enfants qui décrochent, c'est important d'agir pour qu'ils développent leur potentiel, leurs dons, et que ces dons et ce potentiel ne s'endorment pas en route. Alors, et puis, il faut développer aussi tous les nouveaux outils. Le yoga, la pleine conscience, la psychologie positive, la créativité, l'imaginaire, qu'on nourrisse leur cœur, leur cerveau, d'une autre façon.
Alors, Renaud François, cette aventure extraordinaire donc, que vous avez conduite avec votre fils Tom et que vous racontez dans les pas du fils chez Kéro, c'était un peu l'idée de la dernière chance quand même quand vous êtes parti avec lui.
Oui, plutôt. C'était vraiment la dernière limite parce qu'en fait, il y avait le bac, il avait déjà redoublé. Et il avait le bac dans un an et demi après. Et c'était très, très important qu'il arrive à se connaître, en fait, parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il allait faire plus tard. Pour rebondir ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il faut que nos enfants apprennent à se connaître. On leur demande de choisir un métier, une voie, mais sans qu'on leur ait donné les éléments pour qu'ils sachent comment, en eux, ils vont pouvoir trouver les moyens de savoir si j'ai envie d'être menuisier, j'ai envie d'être... Ils ne savent pas. En fait, ils collent des images sur des professions, ils se disent, bon... Ça a l'air pas mal, ça gagne de l'argent, ça brille. Donc, et c'est pas comme ça qu'on choisit un métier. C'est vraiment en expérimentant et en apprenant à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il n'y a rien de mieux que la nature. Parce que c'est vrai que c'est là où on va se confronter avec ses peurs, avec des émotions, le contact avec l'animal, le contact avec les gens qui vivent dans la nature, qui sont vraiment, eux...
Mais ça l'a fait beaucoup grandir, hein, votre fils, dans ce livre. C'est beaucoup passé par leur relation avec le cheval,
ouais.
Ces 3 mois.
Ouais. Le cheval a l'avantage de réagir très très rapidement à ce que vous dégagez. Donc si vous êtes nerveux, le cheval il va être nerveux. Si vous avez peur, il va le sentir et il va essayer de vous bousculer. Et donc ça impose à être relativement intègre par rapport à ses émotions et à la relation qu'on propose au cheval. Et ce qui est très rigolo, c'est que Tom a évolué et son cheval et les chevaux, nos quatre chevaux, ont aussi évolué dans leur relation dans le groupe pendant ces 3 mois.
Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait que ça le remet sur les rails, ce voyage, ces 3 mois avec vous, sur ce chevaux, dans les steppes ?
Il y a beaucoup de choses. Je pense que d'abord, c'est la prise d'autonomie, c'est-à-dire que d'un seul coup, il s'est rendu compte qu'on le considérait comme un adulte. Enfin, je le considérais comme un adulte, et les gens qu'il a rencontrés l'ont considéré comme un adulte. Parce que là-bas, à 17 ans, vous êtes un adulte. Et Tom ne l'était pas. Et donc, très très rapidement, il a fallu qu'il suive la voie. Et puis, moi, je l'ai poussé à prendre les devants. C'est-à-dire que, on le raconte dans le livre, la première fois, ça faisait une semaine qu'on était partis, deux chevaux sont évadés. Et il a fallu les rattraper. Et Tom m'a dit, écoute, est-ce que je peux y aller ? Je lui ai dit, vas-y. Donc il est monté sur son cheval et il a galopé derrière et il est revenu au bout d'une heure et demie. Moi j'étais pété de trouille, mais il est revenu au bout d'une heure et demie avec les deux autres chevaux derrière. Et là ça a été un déclencheur, c'est-à-dire qu'il a vraiment compris confiance en lui. Et ensuite, petit à petit, ça déclenche tout un tas de choses derrière. Vraiment, c'est très efficace, la confiance.
C'est Rory qui chante God's Whisper. Alors, comment la nature est source de créativité ? Renaud François, vous l'avez expérimenté avec votre fils, donc pendant 3 mois dans ces steppes kirghizes, à cheval. 3 mois, vous êtes revenu. Qu'est-ce que ça a déclenché, alors, du coup, chez votre fils ? Il en est où aujourd'hui ?
Alors, ça a été un raz-de-marée. Le retour, déjà, est assez compliqué. De revenir après 3 mois dans une nature sauvage.
Libre, à camper, voilà. À chercher son chemin tous les jours.
C'est comme si vous arrêtériez, que vous étiez un extraterrestre et que vous arrivez dans un monde que normalement vous devez connaître, mais vous ne le connaissez plus. Donc, il lui a fallu 3 semaines à peu près pour retrouver ses marques.
Vous serez resté ?
Ah oui, il ne voulait pas rentrer. Il ne voulait pas rentrer, vraiment. Et il voulait. Il y a eu un moment, il m'a dit mais c'est pas possible qu'on ramène les chevaux après. Enfin, il a essayé par tous les moyens de trouver un moyen de ramener le voyage en France. Il a fini par arriver parce qu'il est reparti derrière l'été suivant. Mais il y a eu une période, en fait, il y a une période trouble. C'est-à-dire que là, le retour est chaotique un peu au début. Et puis ensuite, il a été. Retoucher un peu ses travers donc avec les copains, à sortir en boîte, à faire le fou, et puis à recommencer à fumer, à ne pas suivre en cours. Et très vite, il a eu un petit accident de scooter, ça lui a donné un petit coup de rappel. Et en l'espace de 3-4 mois, on s'attendait à ça, hein, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une période de flottement. Et au bout de 3-4 mois, il a pris conscience qu'effectivement, il était en train de retomber, et il s'est mis à bosser à l'école.
Il est allé puiser dans quelque chose pour se remobiliser pour l'école. Oui, et il y avait le bac à passer, c'est ça ?
Il y avait le bac, et puis il s'est intéressé. C'est la première fois qu'avec lui, quand il venait à la maison, il me ramenait ses cours. Il me disait « Regarde ce qu'on a fait cette semaine. » Donc on a parlé d'économie, on a parlé d'écologie, de géopolitique. Et c'est la première fois qu'il faisait ça. C'est-à-dire qu'il s'intéressait vraiment à...
Il avait retrouvé son goût, de la curiosité, ouais, de l'apprentissage et
pas
tout
retrouvé.
Ça, vous pensez...
Il l'avait jamais eu. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il était vraiment en train de glisser et en train de changer. Et quand il m'a dit « je veux repartir au Kyrgyzstan cet été », je lui ai dit « écoute, si vraiment t'en as envie, fais-le ». Et donc il est reparti pendant 2 mois, accompagné des touristes cette fois, avec un couple de Français qu'on a rencontré là-bas.
Et il a travaillé... leur servir de guide alors maintenant.
Il leur a servi de guide, il s'est occupé des chevaux, des troupeaux et voilà.
Donc c'était vraiment une école de nature, donc il lui a appris à devenir adulte. Marie Gervais, vous avez créé aussi une nouvelle école à Paris, j'ai envie qu'on en parle à la fin, cette école démocratique. Alors elle a aussi ce même but d'aider les enfants à bien pousser.
Alors elle n'a pas de but.
Elle n'a pas de but, oui. J'ai vu, il n'y a pas de cours de maths, il n'y a pas de cours de français.
Il faut déconstruire tout ce qu'on a construit en termes d'éducation, d'instruction, etc. Parce qu'effectivement, c'est une école qui n'a pas d'emploi du temps, pas d'enseignants, pas de classe, puisqu'on est ouvert aux enfants et adolescents de 3 à 18, 19 ans. Voilà. Et donc, c'est basé sur les apprentissages autonomes, c'est-à-dire que chaque enfant adolescent est tout à fait capable d'apprendre par lui-même ce qui l'intéresse. Et voilà, c'est cet environnement multi-âge qui est la vraie richesse de cette école.
Donc c'est les grands qui apprennent aux petits.
Ça va dans les deux sens. C'est aussi les petits qui apprennent aux grands, voilà. Et donc on est une école démocratique. Donc tout est basé sur le processus démocratique. Donc il y a un conseil d'école une fois par semaine où tout est décidé, même jusqu'au budget et au salaire du staff, etc. Et tout le monde participe.
C'est les enfants qui peuvent décider du salaire du staff.
Eh ben c'est une personne, une voix. Donc tout est ouvert à discussion. Tout le monde peut proposer des règles, et chacun vote.
Donc ça fait, vous avez passé cette année scolaire là, oui. 2015-2016. Donc ça fait un an déjà. Alors est-ce que ce que vous avez envie de donner, de déconstruire autant, comment on fait pour acquérir quand même les compétences, je sais pas, lire, écrire, compter, on fait ça comment alors?
Eh ben, on le fait naturellement. C'est incroyable parce que, mais c'est normal de se poser ces questions, c'est qu'en France, on a tellement peur, on est tellement persuadé que, notamment ces questions vraiment importantes de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture vont se faire grâce à un adulte. En fait, non. Il y a pas mal de familles qui font l'instruction en famille où les enfants apprennent à lire. En fait, on n'apprend pas tout seul, on apprend au contact de l'environnement en général. Ça va être les adultes, les panneaux, les journaux, la télé, les faits, voilà tout ça. Ça se fait naturellement. Alors là où je dis qu'il faut déconstruire, c'est que du coup, il faut perdre aussi tous ces repères de « il faut apprendre à lire à 6 ans, ça, ça, ça ». Parce que c'est un modèle d'école qui existe depuis 50 ans aux États-Unis, il y en a partout dans le monde.
C'est la première en France
Il y en avait une qui était une école démocratique, l'école de la Croisée des Chemins à Dijon, mais qui n'est pas basée sur les mêmes processus démocratiques, mais qui est sur la sociocratie, mais c'est tout proche. Et ça veut dire que tel enfant, peut-être il apprendra à lire à 10 ans. À 11 ans. Donc ça demande vraiment un gros lâcher-prise sur tout ce qu'on pense être bon pour l'enfant.
Et dans votre tour du monde, Marine Locatelli, donc avec vos deux ados, le projet Green Teens, ça va vous emmener aussi dans des écoles démocratiques. Aux États-Unis, par exemple, vous allez commencer par quoi ?
On va commencer au Chili, dans un lycée agroécologique à Santiago. un lycée où on prend vraiment soin des animaux, où on ne les tue pas, on ne les mange pas, où la pleine conscience est présente et où les adolescents se retrouvent chaque jour dans leur potager. Ils vont aussi cuisiner ce qu'ils ont cultivé dans le potager. Et puis, chacun va aussi développer ses compétences d'une autre façon.
Vous irez aussi à San Francisco, c'est ça, Bali, toutes ces écoles qui développent un rapport à la nature.
Oui, en fait, le lien commun, la philosophie qui se dégage de tous ces lieux, c'est le bien vivre ensemble, prendre soin de soi et des autres, prendre soin de la nature, être vraiment relié à elle et être dans l'énergie du cœur. Pour moi, c'est le nouveau paradigme et c'est maintenant.
Et vous allez emmener vos ados dans cette aventure donc pour un documentaire. Merci beaucoup à Marine Locatelli, auteure de « Heureux et détendus », par exemple, ou 50 activités de méditation pour toute la famille chez Nathan. Également, mon premier cahier récréatif de méditation chez Erol. Renaud François, donc père de Tom, ce livre écrit à deux mains « Dans les pas du fils » chez Kéro. Et Marie Gervais, vous publiez « La famille buissonnière, découverte et activité en connexion avec la nature » chez Delachaux et Niestlé. Votre site aussi pour avoir toutes les infos sur education-creative.com. Merci à toute l'équipe. Lundi, changement d'équipe pour le coup, c'est Charlie Dupio qui vous accompagnera pour toute la semaine. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO. Éco d'ici.